Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, chapitre 9. Les deux réformateurs, chute de l'homme, expiation de l'homme-Dieu, non-mérite des œuvres, objection réfutée, puissance de l'amour pour Christ, élection, Christ seul maître, effet de cette prédication, abattement et courage, premier acte du magistrat, l'Église et l'État, attaque. Tout en désirant suivre la voie de la douceur, Zwingli ne demeurait pas oisif. Depuis sa maladie, sa prédication était devenue plus profonde, plus vivante. 2000 personnes et plus avaient reçu la parole de Dieu dans leur cœur, confessé la doctrine évangélique dans Zurich et pouvaient déjà l'annoncer elles-mêmes. Zwingli a la même foi que Luther, mais une foi plus raisonnée. Chez Luther, c'est l'élan qui domine. Chez Zwingli, c'est la clarté de l'exposition. Il y a dans les écrits de Luther un sentiment intime et personnel du prix dont est pour lui-même la croix de Jésus-Christ. Et ce sentiment, plein de chaleur et de vie, est l'âme de tout ce qu'il dit. La même chose se retrouve sans doute chez Zwingli, mais à un moindre degré. Il a vu davantage l'ensemble du système chrétien. Il l'admire surtout à cause de la beauté qu'il y trouve, de la lumière qu'il répand dans l'esprit humain et de la vie éternelle qu'il apporte au monde. L'un est plus l'homme du cœur, l'autre est plus l'homme de l'intelligence. Et voilà pourquoi ceux qui ne connaissent point par leur propre expérience la foi qui animait ces deux grands disciples du Seigneur, tombant dans l'erreur la plus grossière, ont fait de l'un un mystique et de l'autre un rationaliste. L'un est plus pathétique peut-être dans l'exposition de sa foi, l'autre est plus philosophique, mais l'un et l'autre croient les mêmes vérités. Ils n'envisagent peut-être pas du même point de vue toutes les questions secondaires, mais cette foi qui est une, cette foi qui vivifie et qui justifie quiconque la possède, cette foi qu'aucune confession, aucun article de doctrine ne peut exprimer, est dans l'un comme dans l'autre. La doctrine de Zwingli a été souvent si mal représenté qu'il convient de rappeler ce qu'il prêchait alors au peuple, dont la foule remplissait toujours de nouveau la cathédrale de Zurich. Zwingli voyait dans la chute du premier homme la clé de l'histoire de l'humanité. « Avant la chute, disait-il un jour, l'homme avait été créé avec une volonté libre, en sorte que s'il l'eût voulu, il eût pu observer la loi. Sa nature était pure, la maladie du péché ne l'avait point encore atteint. Il avait sa vie en sa main, mais ayant voulu être semblable à Dieu, il est mort, et non pas lui seulement, mais aussi tout ce qui naît de lui. Tous les hommes étant morts en Adam, nul ne peut les rappeler à la vie, jusqu'à ce que l'Esprit, qui est Dieu lui-même, les ressuscite de la mort. » Le peuple de Zurich, qui écoutait avec avidité ce puissant orateur, frappé de tristesse en voyant déployer à ses yeux l'état de péché dans lequel se trouve l'humanité, entendait bientôt après une parole de joie et apprenait à connaître le remède qui peut rappeler l'homme à la vie. « Christ, vrai homme et vrai Dieu, disait la voix éloquente du fils des pâtres du Tocquenbourg, nous a acquis une rédemption qui ne finira pas. C'est le Dieu éternel qui est mort pour nous. » Sa passion est donc éternelle, elle apporte à jamais le salut, elle apaise à jamais la justice divine en faveur de tous ceux qui s'appuient sur ce sacrifice avec une foi ferme et inébranlable. Là où le péché existe, s'écriait le réformateur, il est nécessaire que la mort sur il l'a reçu à notre place, il a voulu mourir pour nous rendre à la vie, et comme il n'avait point de péché propre, le Père, plein de miséricorde, a transporté sur lui nos péchés. Puisque la volonté de l'homme, disait encore l'orateur chrétien, s'est mise en rébellion contre le Dieu suprême, il était nécessaire, pour que l'ordre éternel fût rétabli et que l'homme fût sauvé, que la volonté humaine se soumît en Christ à la volonté divine. Il répétait souvent que c'était pour les fidèles, pour le peuple de Dieu, qu'avait eu la mort expiatoire de Jésus-Christ. Les âmes avides de salut dans la cité de Zurich trouvaient du repos en entendant cette bonne nouvelle, mais il y avait dans les esprits de vieilles erreurs qu'il fallait détruire. Partant de cette grande vérité d'un salut qui est le don de Dieu, Zwingli s'est levé avec force contre le prétendu mérite des œuvres humaines. « Puisque le salut éternel, disait-il, provient uniquement du mérite et de la mort de Jésus-Christ, le mérite de nos œuvres n'est que folie, pour ne pas dire téméraire impiété. Si nous avions pu être sauvés par nos œuvres, il n'eût pas été nécessaire que Jésus-Christ fût mort. Quiconque est jamais venu à Dieu, et vu que la curiosité des hommes peut objecter ou peut craindre, quiconque croit en Jésus-Christ est certain que tout ce qui vient de Dieu est nécessairement bon. Si donc l'Évangile est de Dieu, il est bon. Et quel autre pouvoir serait capable d'implanter parmi les hommes l'innocence, la vérité, l'amour? Ô Dieu très clément, très juste, Père des miséricordes, s'écriait-il dans l'effusion de sa piété, avec quelle charité tu nous as embrassés, nous tes ennemis? De quelles grandes et certaines espérances tu nous as remplis, nous qui n'eussions dû connaître que le désespoir? Et à quelle gloire tu as appelé en ton Fils notre petitesse et notre néant? Tu veux par cet ineffable amour nous contraindre à te rendre amour pour amour. Puis, s'attachant à cette idée, il montrait que l'amour pour le Rédempteur est une loi plus puissante que les commandements. Le chrétien, disait-il, délivré de la loi, dépend entièrement de Christ. Christ est sa raison, son conseil, sa justice et tout son salut. Christ vit en lui et agit en lui. Christ le conduit seul et il n'a pas besoin de notre conducteur. Et se servant d'une comparaison à la portée de ses auditeurs, il ajoutait « Si un gouvernement défend sous peine de mort aux citoyens de recevoir de la main des étrangers des pensions et des largesses, que cette loi est douce et facile à ceux qui, par amour de la patrie et de la liberté, s'abstiendraient déjà d'une action si coupable. Mais au contraire, comme elle tourmente, comme elle accable ceux qui ne pensent qu'à leur intérêt. Ainsi, le juste vit joyeux dans l'amour de la justice, et l'injuste marche en frémissant sous le poids pesant de la loi qui l'opprime. » Il y avait dans la cathédrale de Zurich bon nombre d'anciens soldats qui comprenaient la vérité de ces paroles. L'amour n'est-il pas le plus puissant des législateurs? Ce qu'il commande n'est-il pas aussitôt accompli? Celui que nous aimons n'habite-t-il pas dans notre cœur et n'y fait-il pas lui-même ce qu'il ordonne? Aussi, Zwingli, s'enhardissant, affirmait au peuple de Zurich que l'amour pour le Rédempteur était seul capable de faire faire à l'homme des choses agréables à Dieu. Les œuvres faites hors de Jésus-Christ ne sont point utiles, disait l'orateur chrétien. Puisque tout se fait de lui, en lui et par lui, que prétendons-nous nous arroger à nous-mêmes? Partout où l'on croit en Dieu, là est Dieu, et là où Dieu se trouve, il y a un zèle qui presse, qui pousse aux bonnes œuvres. Prends soin seulement que Christ soit en toi et que tu sois en Christ, et ne doute pas qu'alors il n'opère. La vie du chrétien n'est qu'une opération continuelle par laquelle Dieu commence, continue et accomplit le bien dans l'homme. Frappé de la grandeur de cet amour de Dieu qui est dès les temps éternels, le héros de la grâce renforçait les accents de sa voix pour appeler les âmes résolues ou craintives. « Craindriez-vous, disait-il, de vous approcher de ce tendre Père qui vous a élu? Pourquoi nous a-t-il élus en sa grâce? Pourquoi nous a-t-il appelés? Pourquoi nous a-t-il attirés? Est-ce pour que nous n'osions pas aller à lui ?» Telle était la doctrine de Zwingli, c'était celle de Jésus-Christ même. « Si Luther prêche Christ, il fait ce que je fais, disait le prédicateur de Zurich. Ceux qui ont été amenés par lui à Christ surpassent en nombre ceux qui l'ont été par moi. Mais n'importe, je ne veux porter d'autre nom que celui de Christ dont je suis le soldat et qui seul est mon chef. Jamais un seul trait de lettre n'a été écrit ni par moi à Luther, ni par Luther à moi. Et pourquoi? Afin de montrer à tous combien l'Esprit de Dieu est d'accord avec lui-même, puisque, sans nous être jamais entendus, nous enseignons avec tant d'harmonie la doctrine de Jésus-Christ. Ainsi Zwingli prêchait avec courage, avec entraînement. La vaste cathédrale ne pouvait contenir la foule des auditeurs. Tous louaient Dieu de ce qu'une vie nouvelle commençait à ranimer le corps éteint de l'Église. Des Suisses de tous les cantons, venus à Zurich, soit pour la diète, soit pour d'autres motifs, touché par cette prédication nouvelle, emportait les précieuses semences dans toutes les vallées helvétiques. Une acclamation s'élevait des montagnes et des cités. La Suisse, écrivait de Lucerne à Zurich Nicolas Ageus, la Suisse a jusqu'à présent donné le jour à des Scipion, à des César, à des Brutus, mais à peine a-t-elle produit un ou deux hommes qui connussent Jésus-Christ et qui nourrissent les cœurs, non de vaines disputes, mais de la parole de Dieu. Maintenant que la Providence divine donne à la Suisse Zwingli pour orateur et Oswald Mikonius pour docteur, les vertus et les saintes lettres renaissent parmi nous. Ô heureuse Helvétie, si tu savais enfin te reposer de tant de guerres, et déjà si célèbre par les armes, te rendre plus célèbre encore par la justice et la paix. On disait, écrivait Mikonius à Zwingli, que ta voix ne pouvait s'entendre à trois pas, mais je vois maintenant que c'est un mensonge, car la Suisse entière t'entend. Tu t'es revêtu d'un courage intrépide, lui écrivait de Bâle et Dion. Je te suivrai tant que je pourrai. Je t'ai entendu, lui disait de Constance Sébastien Hofmeister de Schaffhouse. Ah, plût à Dieu que Zurich, qui est à la tête de notre heureuse confédération, fût arrachée à la maladie et que la santé revint ainsi dans tout le corps. Mais Zwingli rencontrait des adversaires aussi bien que des admirateurs. À quel propos, disaient les uns, s'occupe-t-il des affaires de la Suisse? Pourquoi, dans ses instructions religieuses, disaient les autres, répète-t-il chaque fois les mêmes choses? Au milieu de tous ces combats, souvent la tristesse s'emparait de l'âme de Zwingli. Tout lui semblait se confondre et la société lui paraissait se mouvoir sans dessus-dessous. Il croyait impossible que quelque chose de nouveau parût sans que quelque chose de tout opposé se montrât aussitôt. Une espérance naissait-elle en son cœur? Tout à côté, y naissait une crainte. Cependant, bientôt, il relevait fièrement la tête. « La vie de l'homme ici-bas est une guerre, » disait-il. « Celui qui désire obtenir la gloire doit attaquer en face le monde et, comme David, faire mordre la poussière à ce Goliath superbe qui paraît si fier de sa haute stature. » L'Église, disait-il comme Luther, a été acquise par le sang et doit être restaurée par le sang. Plus il y a en elle de souillure, plus aussi il nous faut armer d'Hercule pour nettoyer ses étables d'Augias. Je crains peu pour Luther, ajoutait-il, même s'il est foudroyé par les carreaux de ce Jupiter. Zwingli avait besoin de repos. Il se rendit aux eaux de Bade. Le curé du lieu, ancien garde du pape, homme d'un bon caractère mais d'une complète ignorance, avait obtenu son bénéfice en portant la hallebarde. Tandis que, fidèle à ses habitudes de soldat, il passait le jour et une partie de la nuit en joyeuse compagnie. Staheli, son vicaire, était infatigable à remplir tous les devoirs de sa charge. Zwingli fit venir chez lui le jeune ministre. « J'ai besoin d'aide suisse, » lui dit-il. Et dès ce moment, Staheli fut son collaborateur. Zwingli, Staheli et Lüthi, plus tard pasteur de Winterthur, vivaient sous le même toit. Le dévouement de Zwingli ne devait pas rester sans récompense. La parole de Christ, prêchée avec tant d'énergie, devait porter des fruits. Plusieurs magistrats étaient gagnés. Ils avaient trouvé dans la parole de Dieu leur consolation et leur force. Affligés de voir les prêtres et surtout les moines dire effrontément du haut de la chair tout ce qui leur venait à l'esprit, le conseil rendit un arrêté par lequel il leur ordonna de n'avancer dans leurs discours que ce qu'ils auraient puisé dans les sources sacrées de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce fut en 1520 que le pouvoir civil intervint ainsi pour la première fois dans l'œuvre de la Réformation, agissant en magistrat chrétien, disent les uns, puisque le premier devoir du magistrat est de maintenir la parole divine et de défendre les intérêts les plus précieux des citoyens, autant à l'Église sa liberté, disent les autres, l'asservissant au pouvoir séculier et donnant le signal de cette série de maux qu'a enfanté depuis lors l'union de l'Église et de l'État. Nous ne prononcerons point ici, dans cette grande controverse, qui de nos jours est soutenue en plusieurs pays avec tant de chaleur. Il nous suffit d'en signaler l'origine à l'époque de la Réformation. Mais il y a autre chose encore à signaler. L'acte de ces magistrats fut lui-même un effet produit par la prédication de la parole de Dieu. La Réformation sortit alors en Suisse des simples individualités et entra dans le domaine de la nation. Née dans le cœur de quelques prêtres et de quelques lettrés, elle s'étend, elle s'élève, elle prend position dans les lieux supérieurs. Comme les eaux de la mer, elle monte peu à peu jusqu'à ce qu'elle recouvre une immense étendue. Les moines étaient interdits. On leur ordonnait de ne prêcher que la parole de Dieu et la plupart ne l'avaient jamais lue. L'opposition provoque l'opposition. Cet arrêté devint le signal d'attaque plus violente contre la Réformation. On commença à comploter contre le curé de Zurich. Sa vie fut en danger. Un soir que Zwingli et ses vicaires s'entretenaient tranquillement dans leur maison, des bourgeois arrivèrent avec précipitation, leur disant « Avez-vous de solides verrous aux portes? Soyez cette nuit sur vos gardes. Nous avions souvent de telles alarmes, ajoute Staeli, mais nous étions bien armés et l'on faisait pour nous la garde dans la rue. » On avait pourtant recours ailleurs à des moyens proliques, les prêtres et les superstitions dont le canton était rempli. Il devint bientôt un objet de haine et d'effroi, même pour sa famille. Le vieillard, prévoyant de funestes desseins, quitta le cœur brisé sa maison et s'enfuit dans les forêts voisines. Il vécut là quelques jours, se nourrissant de ce qu'il pouvait trouver, quand, tout à coup, c'était la dernière nuit de l'an 1520, des flambeaux éclairèrent en tous sens la forêt et des cris d'hommes, des aboiements de chiens furieux retentirent sous ses sombres ombrages. Le conseil avait ordonné une battue dans les bois pour le découvrir. Les chiens trouvèrent leur proie. Le malheureux vieillard fut traîné devant le magistrat et, sommé d'abjurer sa foi, comme il demeurait inébranlable, il fut décapité. Livre 8, chapitre 10, Martyr de Galster, le réformateur de Berne, Zwingli encourage Aller, l'évangile à Lucerne, Oswald persécuté, prédication de Zwingli, Henri Bullinger et Gérold Knono, Roubli à Bâle, le chapelain de l'hôpital, guerre en Italie, Zwingli contre les capitulations. L'année dont cette sanglante exécution signala le premier jour était à peine commencée lorsque Zwingli vit arriver chez lui à Zurich un jeune homme d'environ 28 ans, d'une belle stature, dont les dehors annonçaient la candeur, la simplicité et la timidité. Il dit se nommer Berthold Aller. Zwingli, à ce nom, embrassa le célèbre prédicateur de Berne avec cette affabilité qui donnait tant d'agrément à ses manières. Aller, né à Aldingen, en Württemberg, avait d'abord étudié à Rottweil sous Rubellus, puis à Pforzheim, où il avait eu Simmler pour maître et Melanchthon pour condisciple. Les Bernois étaient alors décidés à appeler les lettres dans le sein de leur république que les armes avaient rendues si puissantes. Rubellus et Berthold, âgés de 21 ans, s'y rendirent. Quelque temps après, Aller fut nommé chanoine et plus tard prédicateur de la cathédrale. L'évangile que Zwingli prêchait était parvenu jusqu'à Berne. Aller crut, et dès lors il désira voir cet homme puissant qu'il respectait déjà comme un père. Il alla à Zurich, où Myconius l'avait annoncé. Ainsi se rencontrèrent Aller et Zwingli. Aller, l'homme plein de douceur, faisait à Zwingli la confidence de ses peines, et Zwingli, l'homme fort, lui inspirait du courage. « Mon esprit, disait un jour Berthold à Zwingli, est accablé. Je ne puis supporter tant d'injustices. Je veux abandonner la chair et me retirer à Bâle auprès de Wittenbach pour ne plus m'occuper que des saintes lettres. » Ah, répondit Zwingli, moi aussi je sens le découragement s'emparer de moi quand je me vois injustement déchiré, mais Christ réveille ma conscience par le puissant aiguillon de ses terreurs et de ses promesses. Il m'alarme en disant, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Et il me rend la paix en ajoutant, « Celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père. Ô mon cher Berthold, réjouissez-vous. Notre nom est écrit en traits ineffaçables dans les fastes des citoyens d'en haut. je suis prêt à mourir pour Christ. Que vos farouches oursins, ajoutait-il, entendent la doctrine de Jésus-Christ et vous les verrez s'adoucir. Mais il faut entreprendre cette tâche avec une grande douceur, de peur que, se retournant, ils ne se jettent sur vous avec furie. Le courage revint à Haller. « Mon âme, dit-il à Zwingli, s'est réveillée de son sommeil. Il faut que j'évangélise, il faut que Jésus-Christ soit rétabli dans ses murs, d'où il a été si longtemps exilé. » Ainsi, le flambeau de Berthold s'alluma au flambeau d'Ulrich et le timide Haller se jeta au milieu d'ours féroces qui, grinçant des dents, dit Zwingli, cherchait à le dévorer. C'était cependant ailleurs que la persécution devait commencer en Suisse. La belliqueuse Lucerne se présentait comme un adversaire armé de pied en cap et la lance en arrêt. L'esprit militaire dominé dans ce canton a mis des capitulations et les grands de la cité fronçaient le sourcil dès qu'ils entendaient une parole de paix propre à mettre un frein à leur humeur guerrière. Cependant, des écrits de Luther ayant pénétré dans cette ville, quelques habitants se mirent à les parcourir et en furent saisis d'horreur. Il leur semble qu'une main infernale a tracé ces lignes. Leur imagination s'effraye, leurs yeux s'égarent, et ils pensent voir leur chambre se remplir de démons qui les entourent et qui fixent sur eux leurs regards avec un sarcastique sourire. Ils ferment précipitamment le livre et le jettent loin d'eux avec effroi. Oswald, qui avait entendu raconter ces singulières visions, ne parlait de Luther qu'avec ses amis les plus intimes et se contentait d'annoncer simplement l'évangile de Christ. On entendait néanmoins dans toute la ville ces cris « Il faut brûler Luther et le maître d'école !» Mekonius, « Je suis assailli par mes adversaires comme un navire par les tourmentes de la mer », disait Oswald à l'un de ses amis. Un jour, au commencement de l'an 1520, il fut à l'improviste sommé de comparaître devant le conseil. « Il vous est enjoint, lui dit-on, de ne point lire les écrits de Luther à vos élèves, de ne pas le nommer devant eux, et même de ne jamais penser à lui. » Les seigneurs de Lucerne prétendaient, on le voit, étendre bien loin leur juridiction. Peu après, un prédicateur s'éleva en chair contre l'hérésie. Tout l'auditoire était ému. Les regards se portaient sur Oswald, car quel autre que lui, le prédicateur, aurait-il pu avoir en vue ? Oswald demeurait tranquille, à sa place, comme si la chose ne l'eût pas concerné. Mais au sortir de l'église, comme il marchait avec son ami le chanoine Xyloctète, l'un des conseillers passa près d'eux, encore tout agité. « Eh bien, leur dit-il avec violence, disciples de Luther, pourquoi ne défendez-vous pas votre maître ?» Ils ne répondirent rien. « Je vis, disait Mekonius, parmi des loups sauvages, mais j'ai cette consolation que les dents manquent à la plupart. Ils mordraient s'ils le pouvaient, et ne le pouvant, ils aboient. » Le Sénat s'assembla, car le tumulte croissait parmi le peuple. « C'est un luthérien, dit l'un des conseillers. « C'est un propagateur de nouvelles doctrines, dit un autre. « C'est un séducteur de la jeunesse, dit un troisième. « Qu'il comparaisse, qu'il comparaisse !» Le pauvre maître d'école comparut, et entendit de nouveau défense et menaces. Son âme simple était froissée, abattue. Sa douce épouse ne le consolait qu'en versant des larmes. Sa douce épouse ne le consolait qu'en versant des larmes. « Chacun s'élève contre moi, s'écriait-il dans son angoisse. Assailli par tant de tempêtes, où me tourner et comment échapper? N'était le secours de Christ, j'aurais depuis longtemps succombé sous tant de coups. « Qu'importe, lui écrivit le docteur Sébastien Hofmeister de Constance, que Lucerne veuille ou non vous garder. La terre est toute au Seigneur, tout pays est la patrie de l'homme courageux. Quand nous serions les plus méchants des hommes, notre entreprise est juste, car nous enseignons la parole de Christ. » Tandis que la vérité rencontrait à Lucerne tant d'obstacles, elle était victorieuse à Zurich. Zwingli travaillait sans relâche. Voulant méditer la Sainte Écriture tout entière dans les langues originales, il s'était mis avec zèle à l'étude de l'hébreu, sous la direction de Jean Bochenstein, élève de Röchlin. Mais s'il étudiait l'Écriture, c'était pour la prêcher. Le vendredi, les paysans qui venaient en foule apporter leurs denrées au marché de la ville se montraient avides de la parole de Dieu. Pour satisfaire ses besoins, Zwingli s'était mis dès le mois de décembre 1520 à exposer les psaumes chaque vendredi, en se préparant sur le texte même. Les réformateurs unir toujours des études savantes à des travaux pratiques. Ses travaux étaient le but, ses études n'étaient que le moyen. Ils étaient à la fois hommes de cabinet et hommes du peuple. Cette union de la science et de la charité est un trait caractéristique de cette époque. Quant à ses prédications du dimanche, Zwingli, après avoir exposé selon saint Matthieu la vie du Seigneur, montra ensuite, en expliquant les actes des apôtres, comment la doctrine de Christ s'était répandue. Puis il exposa les règles de la vie chrétienne d'après les épîtres à Timothée. Il se servit de l'épître aux Galates pour combattre les erreurs de doctrine et il joignit les deux épîtres de saint Pierre pour montrer aux contempteurs de saint Paul qu'un même esprit animait ces deux apôtres. Il termina par l'épître aux Hébreux afin d'exposer dans toute leur étendue les bienfaits qui découlent du don de Jésus-Christ, le souverain sacrificateur des chrétiens. Mais Zwingli ne s'occupait pas seulement des hommes faits. Il cherchait à apporter aussi à la jeunesse un feu sacré qui l'anima. Un jour de cette année 1521, comme il était occupé dans son cabinet à étudier les pères de l'Église, en recueillant les passages les plus frappants et les classant avec soin dans un gros volume, il vit entrer un jeune homme dont la figure l'intéressa vivement. C'était Henri Bullinger qui, de retour d'Allemagne, venait le voir, impatient de connaître ce docteur de sa patrie dont le nom était déjà célèbre dans la chrétienté. Le beau jeune homme fixait successivement ses regards sur le réformateur et sur ses livres, et il se sentait une vocation à marcher sur les traces de Zwingli. Celui-ci l'accueillit avec cette cordialité qui lui gagnait tous les cœurs. Cette première visite eut une grande influence sur toute la vie de l'étudiant de retour au foyer paternel. Un autre jeune homme avait aussi gagné le cœur de Zwingli. C'était Gerold Meyer de Knonau. Sa mère Anna Reinhardt, qui occupa plus tard une place importante dans la vie du réformateur, avait été d'une grande beauté et ses vertus la distinguaient encore. Un jeune homme d'une famille noble, Jean Meyer de Knonau, élevé à la cour de l'évêque de Constance, dont il était parent, avait conçu une vive passion pour Anna. Mais celle-ci appartenait à une famille bourgeoise. Le vieux Meyer de Knonau avait refusé son consentement à leur union et, après le mariage, avait déshérité son fils. En 1513, Anna resta veuve, avec un fils et deux filles, et ne vécut plus que pour l'éducation de ses pauvres orphelins. Le grand-père était impitoyable. Un jour cependant, la servante de la veuve, ayant pris avec elle le jeune Gerold, enfant plein de grâce et de vivacité, alors âgé de 3 ans, et s'étant arrêté avec lui sur le marché aux poissons, le vieux Meyer, qui se trouvait à une fenêtre, le remarqua, suivit des yeux ses mouvements, et demanda à qui appartenait ce bel enfant, si brillant de fraîcheur et de vie. « C'est celui de votre fils, » lui répondit-on. Le cœur du vieillard s'émut. Aussitôt ses glaces se fondirent. Tout fut oublié, et il serra dans ses bras la femme et les enfants de son fils. Zwingli s'était attaché, comme à son propre enfant, à ce jeune, noble et courageux Gerold, qui devait mourir à la fleur de son âge, près du réformateur, le glaive à la main, et entouré, hélas, des cadavres de ses ennemis. Pensant que Gerold ne trouverait pas à Zurich assez de ressources pour ses études, Zwingli l'envoya en 1521 à Bâle. Le jeune de Gnonau n'y rencontra pas Édion, l'ami de Zwingli. Capiton, obligé d'accompagner l'archevêque Albert au couronnement de Charles Quint, s'était fait remplacer à Mayence par Édion. Bâle avait ainsi perdu, coup sur coup, ses plus fidèles prédicateurs. Cette église semblait abandonnée. Mais d'autres hommes parurent. 4000 auditeurs se pressaient dans l'église de Guillaume Roubli, curé de Saint-Alban. Il attaquait la messe, le purgatoire et l'invocation des saints. Mais cet homme turbulent et avide d'attirer sur soi l'attention publique s'élevait contre les erreurs plutôt qu'en faveur de la vérité. Le jour de la fête-dieu, il se joignit à la grande procession et, au lieu des reliques qu'on avait coutume de promener, il fit porter devant lui les saintes écritures, magnifiquement reliées, avec ces mots en grand caractère « La Bible, c'est ici la vraie relique. Les autres ne sont que des ossements de mort. » Le courage orne le serviteur de Dieu, l'affectation le départ. L'œuvre d'un évangéliste est de prêcher la Bible et non d'en faire un orgueilleux étalage. Les prêtres, irrités, accusèrent Roubli devant le conseil. Un attroupement couvrit aussitôt la place des cordeliers. « Protégez notre prédicateur, » disent les bourgeois au conseil. 50 dames de distinction intercédèrent en sa faveur. Mais Roubli dut quitter Bâle. Il trempa plus tard comme Grébel dans les désordres anabaptistes. La réformation, en se développant, rejeta partout la paille qui se trouvait mêlée au bon grain. Alors, de la plus modeste des chapelles, se fit entendre une voix humble, annonçant avec clarté la doctrine évangélique. C'était celle du jeune Wolfgang Wissenberger, fils d'un conseiller d'État et chapelain de l'hôpital. Tous ceux qui, dans Bâle, avaient des besoins nouveaux, s'attachèrent au débonnaire chapelain, plus qu'à l'orgueilleux roubli lui-même. Wolfgang se mit à lire la messe en allemand. Les moines renouvelèrent leurs clameurs, mais cette fois ils échouèrent, et Wissenberger put continuer à prêcher l'évangile. Car, dit un vieux chroniqueur, il était bourgeois et son père conseiller. Ses premiers succès de la réforme à Bâle en annonçaient de plus grands encore. En même temps, ils étaient d'une haute importance pour le progrès de cette œuvre dans toute la Confédération. Zurich n'était plus seul. La savante Bâle commençait à entendre avec charme la nouvelle parole. Les bases du nouveau temple s'élargissaient. La réformation atteignait en Suisse un développement plus avancé. C'était pourtant à Zurich que se trouvait le centre de ce mouvement. Mais des événements politiques importants et qui déchirèrent le cœur de Zwingli vinrent pendant le cours de l'an 1521 distraire en quelque manière les esprits de la prédication de l'Évangile. Léon X, qui avait offert à la fois son alliance à Charles Quint et à François Ier, s'était enfin décidé pour l'empereur. La guerre entre les deux rivaux allait éclater en Italie. « Il ne restera du pape que ses oreilles », avait dit le général français Lautrec. Cette mauvaise plaisanterie augmenta la colère du pontife. Le roi de France réclama le secours des cantons suisses qui, à l'exception de Zurich, s'étaient alliés avec lui. Il obtint. Le pape se flatta d'engager Zurich dans sa cause, et le cardinal de Sion, toujours intrigant, se confiant en son habileté et en son éloquence, accourut dans cette cité pour obtenir des soldats en faveur de son maître. Mais il éprouva de la part de son ancien ami Zwingli une vigoureuse opposition. Celui-ci s'indignait à la pensée de voir des Suisses vendre leur sang à l'étranger. Son imagination lui représentait déjà les glaives des Zurichois se croisant sous l'étendard du pape et de l'empereur dans les plaines de l'Italie avec les glaives des confédérés réunis sous les drapeaux de la France, et à ces scènes fratricides, son âme patriotique et chrétienne frémissait d'horreur. Il tonnait de la chair. « Voulez-vous, s'écriait-il, déchirer et renverser la Confédération ? On se jette sur les loups qui dévorent les bêtes de nos troupeaux et l'on ne fait aucune résistance à ceux qui tournent autour de nous pour dévorer les hommes. Ah, c'est avec raison que les manteaux et les chapeaux qu'il porte sont rouges. Secouez ses vêtements, il y tombera des ducats et des couronnes, mais tordez-les et vous en verrez ruisseler le sang de votre frère, de votre père, de votre fils et de votre meilleur ami. » Zwingli fit entendre en vain sa voix énergique. Le cardinal en chapeau rouge réussit, et 2700 Zurichois partirent sous le commandement de Georges Berger. Zwingli annula l'âme brisée. Son influence ne fut pourtant pas perdue. De longtemps, les bannières de Zurich ne devaient plus se déployer et sortir des portes de la ville pour des princes étrangers.